détour, Madeleine Caboche.
Et aujourd'hui, nous partons à Tanger avec Julie Gilbert et Frédéric Chauffa. Bonjour Julie et Fred, on part d'où là Julie ?
Alors on est sur le bateau qui part de Tarifa pour arriver à Tanger. Tanger, la ville blanche, Tanger sur la colline entre l'océan Atlantique et puis la Méditerranée.
Pourquoi vous avez choisi tous les deux de nous embarquer à Tanger ? Qu'est-ce qui vous plaît ? Qu'est-ce qui vous plaisait dans ce projet Frédéric ?
Alors Tanger, avant tout, je crois que c'est un endroit où il y a des terrasses avec on peut boire du thé à la menthe et regarder en effet l'horizon d'un côté ou de l'autre. Et puis c'est toute une culture, cette culture d'Afrique du Nord et cette rencontre de cette ville internationale aux 17 nationalités.
Alors on va partir tout de suite parce qu'on n'a pas le temps d'attendre. On va partir tout de suite. Où exactement, Julie ?
Alors, au Darnour, sur la petite terrasse, comment il s'appelle déjà ?
Le Salon Bleu.
Au cœur de la Médina, donc on surplombe vraiment tout Tanger.
Alors, on y va tout de suite.
Alors là, c'est une petite assiette de briouat. Ça, c'est une spécialité vraiment marocaine. C'est une pâte à frire et farcie aux herbes. Là, en l'occurrence, aux herbes, aux petits oignons et au fromage frais. Mais on peut mettre aussi des restes de briouat, on peut mettre du poisson, etc. Et c'est délicieux, ça se mange chaud, donc il va falloir que tu lâches ton micro pour pouvoir le goûter. Mais voilà, et puis une petite salade marocaine aussi, avec des concombres, des tomates, des oignons. Voilà, bismillah.
Donc le Salon Bleu, c'est une petite maison qui est posée sur la muraille, où d'ailleurs un écrivain assez connu, Samuel Pepys, écrivait il y a quelques siècles ses livres. Et ce que j'aime beaucoup ici, c'est qu'on voit non seulement la mer, mais l'Espagne, comme si elle était à côté.
Et puis tu es dans le quartier historique, puisque là, on a quand même toute la place de la Casbah devant nous, donc l'ancien palais du Sultan, qui est aujourd'hui un musée. Et ce quartier de la Casbah où nous sommes, qui était le lieu du pouvoir, peu à peu, le pouvoir s'est recentré dans la nouvelle ville, et depuis, c'est devenu un quartier extrêmement populaire. Et c'est là où nous avons décidé, nous, de nous installer, parce que ça nous paraissait le quartier encore le plus vrai de Tanger, le plus authentique, celui en tout cas qui nous a plu. Et nous avons donc ouvert notre maison d'hôte, le Darnour, et le Salon Bleu un an et demi après.
Alors, qui êtes-vous et comment êtes-vous arrivé ici ?
On était journalistes, nous, à Lyon. Donc on avait eu une aventure professionnelle assez intense, assez dynamique. On commençait un petit peu à s'essouffler au bout de 15 ans ou 20 ans de pratique professionnelle. On avait un petit peu quelques brumes devant nous, quelques orages, dirons-nous. Et on s'est dit, comment éclaircir un petit peu le paysage et peut-être changer d'horizon pour trouver une nouvelle sensation. Et on avait une amie, Catherine, qui était aussi à un petit tournant et à une petite intersection de sa vie. Et elle avait aussi des choix à faire. Et on s'est dit, pourquoi pas faire quelque chose ensemble, pourquoi pas monter une nouvelle aventure, parce que nous, c'est ce qui nous intéresse dans la vie, c'est des aventures, c'est des histoires. Et le hasard de la vie nous a emmenés sur les rivages de Tanger.
Coup de foudre pour la ville, qui était exactement ce qu'on cherchait. On cherchait une ville improbable, et Tanger très improbable. Entre deux continents, entre deux mers, tout en collines, et avec un passé très brillant de Tanger international. Et un futur qu'on espère très brillant puisque la ville est en train de renaître. Donc c'est une ville toujours entre deux, entre l'Afrique, on dit que c'est la porte de l'Afrique, et l'Europe. Et c'est une ville un peu improbable. Il y a des gens qui la comparent à Naples, enfin c'est un port aussi. La ville, elle renaît vraiment depuis 10 ans, depuis l'arrivée du roi Mohamed VI. C'est vraiment une décision très politique puisqu'il a décidé de... D'abord, il aime cette ville, contrairement à son père qui ne l'aimait pas. Et il a décidé de raccrocher le Maroc économiquement à l'Europe à travers Tanger, ce qui est très intelligent puisque effectivement c'est juste à côté et en plus il a vu le potentiel de Tanger alors que son père Hassan II avait plutôt développé le sud du pays. Donc depuis 10 ans, il y a tout un faisceau de choses qui vont dans le même sens, c'est-à-dire que c'est la ville qui a le plus fort développement économique du royaume et le port de Tanger, qui a été construit à 40 km à l'est de Tanger, va probablement devenir le plus grand port de la Méditerranée. Donc les choses se construisent. On a l'impression, quand on arrive dans ce pays, qu'il y a deux choses qui peuvent arriver à faire changer très vite les choses. Et ce sont les femmes et les artistes. Et ça n'avancera que comme ça, en fait. La structure politique du Maroc est quand même assez contrainte, assez pesante, c'est pas facile, la voie est étroite, etc. Mais les artistes, par contre, ont une certaine liberté au Maroc, comme certaines presses d'ailleurs. Ce sont ces gens-là qui feront avancer petit à petit les choses. Surtout que l'esprit de liberté, en fait, on s'est aperçu, il est assez marocain, en fait. Les Marocains ont en fait un goût assez profond pour faire ce qu'ils veulent. En fait, ils appellent ça faire ce qu'ils veulent, mais en fait, c'est pour la liberté, quoi. Quand on vit en Europe, on a une formation, on a des définitions de la liberté et on a une structure mentale. Et quand on arrive ici, elle est très différente. Donc les repères ne sont pas les mêmes. Par exemple, nous, et je ne porte pas de jugement, nous, par exemple, on nous apprend finalement à être, et c'est une valeur, être cohérent avec nous-mêmes, à assumer ce qu'on est, etc. Ici, ils ne sont pas du tout dans ce rapport-là avec la liberté. C'est-à-dire que c'est plutôt, peut-être parce que c'est un pays où il y a eu des gouvernements forts longtemps, etc., où le poids de la religion est très fort. Mais comme les Marocains sont amoureux de la liberté, en fait, c'est plutôt, je fais ce que je veux. La seule chose, c'est que je sais qu'il faut que je le fasse dans la discrétion pour pouvoir le faire. Donc, eux-mêmes se décrivent souvent comme des schizophrènes, quand ils réfléchissent un peu dans leur situation, mais ça leur va bien. C'est-à-dire que en fait, ils respectent la tradition. Ce ne sont pas des revendicatifs qui disent « tiens, il faut changer la loi pour faire ce que je veux ». Mais à côté, ils font ce qu'ils veulent. Donc c'est très amusant et c'est très différent pour nous. Parce que souvent, ça nous paraît effectivement schizophrène. Puisque nous, on cherche toujours à être raccord avec nous-mêmes, sur ce qu'on dit, sur ce qu'on fait, etc. Ici, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire, à partir du moment où le voisin ne le sait pas, je fais ce que je veux et tout va bien. La provocation qui est presque une valeur chez nous, par exemple, hein, et qui permet aussi d'avancer, qui a permis aussi beaucoup d'avancer ici, c'est pas une valeur, c'est une provocation, donc quelque chose plutôt d'agressif et plutôt d'incompris.
C'est aussi Tanger International, qui était finalement un lieu où tout le monde pouvait se retrouver, et notamment aussi les gens qui voulaient vivre une certaine forme de liberté, parce qu'en France, à l'époque, que ce soit l'homosexualité, le rapport à la drogue, ou etc., ou quand on était un peu tricard, voilà, aux États-Unis, il y avait cette petite ville d'asile, cette ville comme ça qui n'était gérée finalement par personne, donc il n'y avait pas de pression, il y avait une grande, grande liberté à Tanger, et notamment une liberté sexuelle. Et à l'époque, effectivement, il y a beaucoup d'homosexuels qui sont venus ici. Et puis en plus, je pense que culturellement, les pays arabes, ou en tout cas le Maroc, certainement la Tunisie ou d'autres, ont un rapport à l'homosexualité, si on fait abstraction de la religion, ils ont un rapport à l'homosexualité qui est finalement assez banal, et ils le pratiquent de manière assez tranquille. Moi j'ai le souvenir d'un garçon qui me racontait qu'il s'était occupé d'un hammam, et qui travaillait dans un hammam, et on a tout lu des romans où dans les hammams il y a une certaine sensualité, il se passe des choses, même Mohamed Choukri raconte des trucs dans le pain nu, etc. Donc je lui avais posé la question, je lui ai dit mais alors dans les hammams c'est une légende ou effectivement c'est un lieu où on ne fait pas seulement que se laver mais où il se passe aussi des rapports homosexuels. Et là le garçon a été catégorique, il m'a dit mais bien sûr, c'est un espace où les femmes, parce qu'on parle de l'homosexualité, on pense toujours à l'homosexualité masculine, mais l'homosexualité féminine est aussi extrêmement pratiquée, quoi. Et voilà, sans gros problème, ça se fait dans la discrétion et on n'en parle pas.
Bon, et puis aussi avec des repères, des marqueurs et un vocabulaire qui parfois peut nous surprendre ou nous amuser. Par exemple, pour rentrer un peu dans le détail, pour eux déjà... Si un homosexuel, par exemple, là je parle des hommes, et celui qui est actif n'est pas homosexuel. Donc quelqu'un qui couche avec un homme peut vous dire bah « non, je ne suis pas du tout homosexuel ». Et donc nous, ça nous fait rire, mais eux, c'est évident.
Ce qui est aussi intéressant, c'est que quand on vit dans un autre pays que le sien, c'est de voir l'attractivité que peut avoir l'Europe pour ces gens-là. Et des fois, on se dit « mais pourquoi ? Pourquoi vous aimez, pourquoi vous avez envie de ça ?» C'est vrai que souvent, notamment avec, par exemple, il y a eu le mariage gay là qui a été voté en France, et ils étaient stupéfaits, tu vois, dans les cuisines au Darnour et tout. Il y a le chef qui est venu me voir et qui me dit « Mais c'est vrai, un garçon et un garçon peuvent se marier, et une fille et une fille. » Bah, je dis « Ouais, maintenant, c'est voilà, on peut se marier, il n'y a pas de problème, etc. » Et je lui dis « Pourquoi ça te choque ?» Et il m'a dit « Ah non, ça ne me choque pas, parce que de toute façon, en France, c'est la liberté totale. »
tu peux tout faire. Et tu sais, c'est très... Nous, vous, vous êtes l'épreuve vivante de la possibilité qu'ont les Européens de pouvoir se promener partout dans le monde, librement. Et ici, on a compris aussi ce que c'était que la frustration, c'est-à-dire de ne pas pouvoir aller en Europe. Et c'est souvent, on nous renvoie cette idée, on nous dit, tu te rends compte, toi, tous les gens de notre âge peuvent venir au Maroc, passer leurs vacances avec leurs copines ou leurs copains, voyager, visiter et tout. Et nous, on n'a pas le droit d'aller en Europe. Ça crée beaucoup de frustration parce que ces gens-là, ce n'est pas une question de moyens. C'est que de toute façon, on ne donne pas les visas. On ne donne pas de visas touristiques. En tout cas, c'est très peu et c'est au compte-gouttes. Et ça, c'est très, très frustrant pour cette jeunesse qui a envie d'Europe, qui a envie d'aller voir ce que c'est que la liberté. Et qui la fantasme aussi quelque part.
Il faut voir aussi que c'est la première génération qui est comme ça. Parce que leurs parents pouvaient beaucoup plus facilement aller en France, en Hollande, etc. C'est-à-dire que le Maroc, c'est un pays qui est merveilleux. Mais si on regarde bien, entre guillemets, c'est aussi une prison. Enfin, en tout cas, il y a des barrières de partout. Puisque au nord, c'est l'Europe qui ferme ses frontières. À l'ouest, c'est l'Atlantique. À l'est, c'est l'Algérie. La frontière est fermée. Et en Mauritanie... Au sud, c'est pas ça qui leur plaît vraiment pour aller passer des vacances. Donc, c'est un pays, si on regarde bien, qui voyage à l'intérieur du pays, mais ils n'ont pas d'ouverture sur l'extérieur.
Et quand tu es à Tanger, tu vois l'Europe du café Haffa ou du Salon Bleu. Quand tu te mets sur la terrasse, qu'est-ce que tu vois? Tu vois l'Europe dans laquelle tu ne peux pas aller. Et il y a beaucoup de Marocains qui disent, si un jour il arrivait qu'il n'y ait plus de mer entre l'Espagne et le Maroc... Il dit, mais tous les Marocains, en 24 heures, ils traversent tous.
Ça les fait rire beaucoup.
Parce que c'est un peu là-bas, c'est l'Europe, les côtes espagnoles, c'est l'Eldorado. De moins en moins, remarque aussi, parce que ce qu'on voit aussi depuis un an, c'est qu'il y a beaucoup d'Espagnols qui, à cause de la crise, commencent à venir s'installer au Maroc. Et beaucoup de Marocains vivant en Europe aussi, qui plient bagages et qui viennent tenter leur chance dans leur pays d'origine.
Voyage de Fred et Julie à Tanger, c'était en février dernier. Et c'est vrai que c'est ce qu'on dit de plus en plus souvent, que les Espagnols viennent chercher du travail à leur tour au Maroc. Alors on était avec vos invités au Darnour, apparemment une maison d'hôtes superbe. Et si on va sur la terrasse, on voit la Casbah. Quelle est la forme de cette Casbah? Comment ça se présente, Julie?
Alors, depuis la terrasse du Salon Bleu, on voit la Casbah et la Médina. On est vraiment à la limite. Donc la Casbah, c'est des toutes petites maisons en hauteur très très haute où au dernier étage, on voit la mer vraiment à l'horizon. Et puis quand on redescend, forcément, c'est des ruelles très 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 étroites, des magnifiques portes qui marquent l'entrée d'un quartier à un autre. Et puis, puisqu'on parlait de ces hommes qui regardent la mer et les autres qui voudraient venir, il y a en fait dans la Médina un endroit où on passe sous un porche et tout d'un coup, on a plein d'hommes, surtout des hommes, qui regardent l'horizon et qui regarde et espère aller peut-être en Espagne. Donc voilà, c'est ça la Médina, ça grouille, ça... il y a des gens qui traversent, qui passent, qui marchent, beaucoup de commerçants aussi.
Alors qui espèrent aller en Espagne, ça sera aussi le sujet de demain puisque nous parlerons des migrants à travers votre reportage et votre vision de Tanger. Mais là, nous filons toujours sur vos traces, vous êtes en direct mais on vous suit en reportage au Café Baba.
Nous sommes là, assis tous les deux, autour d'une petite table, dans une sorte de terrasse couverte avec des grandes fenêtres bleues.
On voit la mer et les immenses immeubles modernes blancs, des toutes petites silhouettes sur cette immense plage à l'infini.
Un carnet d'écriture, un thé à la menthe et l'ambiance du Café Baba.
Que des jeunes gens en jeans, en baskets, casquettes, qui sont en train de se rouler des joints, de boire des thés à la menthe, de discuter, de jouer. Et puis ils ont leur téléphone pour faire de la musique. Ça discute, ça pense, ça rêve, tout en arabe. Autre monde.
Vous parlez français ? Espagnol ? Français. Comment s'appelle cet endroit-là ?
Café Baba.
Et qu'est-ce que c'est comme endroit ?
Oh, c'est bon, c'est très très gentil. Hein,
oui. Vous venez ici pour être tranquille.
Pour moi, oui.
Et vous êtes de la ville de Tanger?
Oui, à Larache. Larache.
Et ici, qu'est-ce que tu fais là?
Nous sommes fumés le kiff. Ça s'appelle kiff. Et ça?
Et maintenant?
Donc tu as devant toi un petit papier comme ça en plastique. Dedans, c'est du kiff. Donc c'est de l'herbe? Cannabis?
Oui.
Où est-ce qu'il a grandi?
Je suis marocain, 100% marocain, j'ai jamais été en France. Donc en fait, je suis né à Tanger. il n'y a pas très longtemps. Après, on est parti au Rif, s'installer vu le travail de mon père, donc on était à Nador. Après, on est parti à Casablanca, donc c'est là où j'ai vécu beaucoup plus longtemps. J'ai vécu 15 ans à Casa. Et à un moment donné, j'en avais marre de Casablanca, c'était une vie très très dure à vivre. Et donc, il y a 5 ans de cela, j'ai fait le choix de revenir à Tanger. Je connaissais la ville de Tanger à cette époque, mais je ne connaissais pas vraiment l'esprit de Tanger. On dit souvent, Tanger, c'est pas le Maroc en fait. Tu n'es pas dans un Maroc qui est vrai et tu n'es pas dans l'Afrique, tu es dans la Méditerranée. Pour moi, l'esprit de Tanger, c'est une ville qui a vécu. C'est la plus ancienne ville dans l'Afrique, ça fait 12 siècles qu'elle existe. Et tu le sens à travers son architecture, à travers la Casbah, à travers ses montées et descentes, à travers ses gens aussi. Tu n'es plus dans un espace-temps qui est réel. On est dans plusieurs époques en même temps. Et donc c'est ça en fait, c'est l'irrégularité de cette ville qui fait que tu vis un truc très exceptionnel, en tout cas pour moi.
Alors on ne sait toujours pas ton nom et ton prénom. Pourquoi est-ce que tu parles si bien français et comment est-ce que tu occupes tes journées? Qu'est-ce que tu fais dans cette ville?
Alors je m'appelle Hicham, c'est un prénom et le nom c'est Bouzid. Et pourquoi je parle si bien français? Bah écoute, je ne sais foutrement rien pour parler mal. Peut-être parce que mon père, c'était un vrai Rabati, donc il est de Rabat. Il a vécu de l'époque du protectorat français. J'ai pas grandi dans une famille où on parlait que français. Non, on parlait marocain, Darija. Et puis après, moi, j'ai fait des cours à l'Institut français, mais c'était pas forcément ça le grand déclic. Je travaille dans une librairie qui porte bien son nom. Donc c'est la librairie des Insolites, créée par la plus charmante demoiselle que j'ai rencontrée jusqu'à mes jours, qui est Stéphanie Gaou, qui est une libraire d'exception et très très singulière en sa démarche. Et donc ça fait 2 ans et demi pratiquement que je suis à cette librairie.
Est-ce que tu as une attirance par la France? Est-ce que tu rêves d'y aller ou pas du tout? Le fait d'y être toujours pas allé par exemple aujourd'hui?
Je pense que c'est un truc historique au Maroc, parce qu'on est toujours colonisé un petit peu par la France, chose qui est un peu normale. L'indépendance, c'est le date d'hier, donc... C'est-à-dire que moi, juste mes parents et mes grands-parents, ils ont vécu cette époque. Où vivre en France, ça m'excite pas vraiment, en fait. Enfin, spécialement vu l'état de France actuellement, je préférais 1000 fois rester à Tanger.
Du point de vue vraiment pratique, est-ce que c'est facile pour toi d'avoir un visa pour la France?
Effectivement, je ne peux pas prendre mon passeport et effectivement aller directement à l'aéroport, prendre mon billet et partir. Je ne peux pas être dans cette démarche. Or qu'il y a d'autres gens qui peuvent le faire et c'est là où ça m'agace en fait.
D'autres gens ici ou d'autres gens comme nous?
D'autres gens qui n'ont pas la nationalité marocaine. Je suis marocain, j'ai la nationalité marocaine. Si demain j'ai envie de voyager, je ne peux pas voyager que si j'ai un dossier bien complet de je ne sais pas ceci, de cela, d'avoir un compte en banque qui attend de ceci, de payer le visa, hein, parce que le visa ça coûte vite fait 1000 dirhams. 1000 dirhams pour un Marocain, ça ne sort pas vite fait de la poche, c'est quand même un budget qui est considérable. Et donc voilà, oui, ça me fait chier.
On entend combien de langues autour de nous, là, Hicham?
Alors, on entend l'arabe, donc le darija, le français, l'italien, et ça parle un petit peu anglophone, donc ça va, il y a un peu de mélange, quoi.
Alors, explique-nous juste, qu'est-ce que le darija?
Donc, le darija, c'est le dialecte marocain. C'est pas tout à fait de l'arabe classique. Parfois, ça n'a rien à voir avec l'arabe classique, mais c'est l'arabe classique modelé en marocain, en fait. Il y a aussi des expressions qui sont utilisées à Tanger.
Un dessert, café.
Je prends un café.
Café.
Ce qui est encore très marquant, c'est qu'à Tanger, on parle plus... l'arabe est mélangé avec l'espagnol. Or qu'à Casablanca, ou des villes encore plus dans le sud, l'arabe dialectal est peut-être entremis avec le français notamment, avec l'espagnol.
Alors si. le fameux Tanger sulfureux, sexe, drogue et...
Rock'n'roll.
C'est le Tanger un peu qui fait mal au Tangerois. Mais c'est un Tanger qui existe. En fait, Tanger, c'est aussi une ville qui vit beaucoup la nuit. Et c'est connu ça à travers l'histoire de Tanger, si on s'y intéresse un petit peu. C'est une ville qui vit beaucoup plus le soir que le jour.
Merci.
C'est-à-dire que le matin, même les boutiques, les magasins, c'est pas comme d'autres villes au Maroc, pas comme Casa où à 9h du matin, tu sors, tu trouves tout le monde a ouvert ses trucs. Non, ici à Tanger, ça commence à ouvrir à partir de 11h, midi. Et on attend, en fait. On est dans une... On est toujours dans une attente, que je ne sais pas quoi, mais on est toujours dans un mode de fonctionnement tangérois, propre à Tanger, en fait. Qui est aussi très espagnol, hein, le fait de vivre la nuit, de prendre son temps le matin. Et donc voilà, Tanger, c'est effectivement une ville assez sulfureuse, hein, qui vit beaucoup la nuit. C'est-à-dire que c'est pas mon côté libraire qui parle, là, c'est rien à voir. C'est mon côté Hicham la nuit, quoi. Tu te procures de la drogue plus facilement et moins cher et peut-être même de bonne qualité. C'est-à-dire le hashish à Tanger, c'est parmi les meilleurs, quoi. À Tanger, c'est un truc normal. Quand tu vas à Marrakech ou à Casa ou à Rabat, t'as pas des cafés comme ici à Tanger, comme le Café Baba ou d'autres cafés qui sont très très sympas, assez poupus, où tu peux t'installer, rouler ton petit pétard tranquillement et le fumer publiquement, en fait. Cela dit, si tu fumes dans ce café, s'il y a la police qui débarque, ils ont le droit de t'emmener avec eux en poste. Après, ça va pas être une grande histoire, mais ils te foutent cette frustration. Mais cela dit, à Tanger, ça reste, et beaucoup le Nord, ça reste parmi les rares villes où tu trouves des cafés tranquillement, tu peux t'installer, tu fumes ton petit pétard et puis voilà.
Julie Gilbert, un truc normal, le hashish à Tanger?
C'est surtout un gros cliché, mais qui existe effectivement. C'est l'histoire de Tanger, c'est-à-dire à la fois il y a énormément d'écrivains, de gens qui ont voyagé pour prendre du hashish, et donc ça continue. Mais c'est pas que ça à Tanger.
L'histoire de la Beat Generation, c'est vrai quand on lit un peu, on pense à tous ces gens qui sont passés par là, Kerouac,
Williams,
voilà. Qu'est-ce qui reste de... On utilise leur image dans cette ville.
Il y a le mythe en même temps, tous ces clichés, en effet, il y a la table où Paul Bowles a écrit tel
c'est
roman. On n'y est pas allé forcément, mais on retrouve ces cafés et c'est vrai qu'on se retrouve dans cette ambiance-là. Donc en même temps, elle est très forte et en même temps, comme tous ces clichés, il faut les faire, il faut les décrire, il faut les voir et après passer la porte, passer le miroir et puis découvrir le vrai Tanger.
Mais apparemment, ce que disait Julie, c'est qu'on s'en sert, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est pas seulement là où a écrit Paul Bowles, sans arrêt.
Dans tous les cafés, Paul Bowles a forcément écrit quelque chose, donc il y a forcément la table où on peut retrouver cette ambiance.
Mais en même temps, si on nomme Paul Bowles, on adore se retrouver dans cette ville et retrouver de toute façon ses phrases, ses histoires, ses nouvelles à chaque coin de rue.
Et si on avait 3 heures d'émission, on aurait lu des extraits. Mais on n'a pas 3 heures. On continuera la visite tout à l'heure en votre compagnie au sud de la Médina. Mais pour l'instant, on écoute Sophia Charaï.
Détour jusqu'à 14h sur la première. دازت من هنا شافو غدايزا هاربة وقيلة ورقصة حتى حد مشتها طريق ما عرفها رجالة وراها ورقصة سحابوها هنايا شافوها ليها حتى حد ما عرف ليها ورقصة كبرت معاها ونسيت ميتها رقصة صاحبتي زعما كتقولها ليا حتى حد ما حسن لها ورقصة كانت هنايا شافوها ليها هاربة وقيلة ورقصة كبرت معاها ونسيت ميتها رقصة رانايرا كيف الريح كتطلب بين السبعة رانايرا كيف النار تحرك لي تقربها رقصة دايزة في دربنا ها هي ماشية ورقصة تحت مجدها طريق ما عرفها رجال وراها رقصة كبرت معاها ونسيت ميتها رقصة كبرت معاها
Sophia Charaï, c'est des tours qui vous embarquent à Tanger, si vous nous rejoignez maintenant. Alors, on vous a entendu tout à l'heure évoquer les grands auteurs, la vie culturelle intense qui a eu lieu dans cette ville internationale de Tanger. Est-ce qu'il se passe encore quelque chose au niveau de la littérature aujourd'hui, Julie ou Fred ?
Ben, il y a une présence, cette culture qui est très grande. On a pu entendre tout à l'heure Hicham qui a une très grande connaissance et du français et de la culture en règle générale. Lui travaille dans une librairie qui s'appelle la librairie des Insolites. Il y a une autre librairie qui s'appelle la librairie des Colonnes. Et c'est deux lieux vraiment centraux,
deux pôles
où on va trouver des livres en français, en arabe, en anglais.
Mais est-ce qu'on écrit, est-ce que les auteurs
viennent
toujours? On n'en
a pas rencontré, on a cherché. Il y a Mohamed Choukri qui a vraiment transcendé Tanger dans une écriture plus contemporaine. On n'a pas eu le temps de découvrir toutes les personnes qu'on aurait voulu, parce que c'est toujours le problème de ces villes un peu musées où l'histoire est tellement grande, il faut se faire la place, il faut pouvoir créer son propre chemin, son propre sillon. Et je pense que c'est un moment un peu difficile où tout est là, tout est latent, mais il reste encore à éclore, à mon avis.
Donc il faudra vous y retourner.
Mais Hicham parle de ça. Il dit que finalement, que va être Tanger demain ? Et il espère réellement ne pas vivre que dans le mythe, mais que justement des nouveaux artistes, des nouveaux photographes, cinéastes, tout d'un coup vont surgir pour raconter le Tanger d'aujourd'hui.
Où allons-nous maintenant ?
On continue dans la Médina.
Alors on va descendre dans les petites rues, en effet on passe le marché aux poissons et on arrive au milieu, il y a un caravansérail où on peut trouver des tisserands qui font des tapis incroyables, des tissus, etc. Et puis là au milieu, perdu, il y a la légation américaine, un très vieux bâtiment où se trouve...
Un beau bâtiment.
Un vieux bâtiment, en tout cas tous sont beaux, tous, il y a des traces de différentes colonies, tous ont une marque très particulière.
Attendez, les beaux bâtiments coloniaux sont un peu décatis mais très, très présents et très...
Voilà, ce qui fait toujours le charme de ces villes un peu portuaires où tout est un peu décatis.
Il y a des patios magnifiques intérieurs avec des carrelages,
des fontaines, des arbres. C'est très luxuriant.
C'est méditerranéen.
Alors là, on va rencontrer des femmes qui apprennent à des métiers différents les unes des autres.
C'est des sortes d'ateliers, en fait, puisque la légation américaine a vocation tout d'un coup de transmettre des enseignements. Donc là, c'est seulement pour les femmes de la Médina. Et effectivement, elles sont là pour apprendre, on va voir, la couture, l'arabe, la cuisine, différentes choses. Alors, on est effectivement dans une grande salle où il y a plein de femmes qui sont assises ensemble et qui sont en train de coudre. Donc, il y a une femme qui coud une boucle là-bas, il y a une autre femme qui vient de nous montrer une très belle broderie en forme de carré. Et voilà.
Je me présente, je m'appelle Fatima Bengarche, je donne des cours pour les femmes du quartier. Et on a cette année plus de 160 femmes qui font les cours d'arabe, français, anglais, aussi la couture et la cuisine.
Quel âge ont ces femmes ?
Ça varie de 25 ans jusqu'à 60, 70.
Comment se passe la démarche ? Vous allez frapper à la porte ? Ces femmes vont venir d'elles-mêmes ou ça va prendre du temps jusqu'à ce qu'elles viennent jusqu'ici ?
Non, la première fois, c'était un peu... un tabou pour elle. Comme on dit en arabe, chouma, les femmes viennent ici pour apprendre l'arabe. Mais la voisine, quand il voit sa voisine qu'elle sait écrire et lire et aller au souk et faire ses marches sans avoir besoin d'autres personnes, alors ça vient oreille à oreille et elle vient ici.
Elles viennent combien d'heures par semaine à peu près ?
Pour l'arabe, c'est 3 fois par semaine. On a 4 niveaux. Chaque niveau, 3 fois par semaine. Chaque leçon, 1h30. Et pour le français, 1 fois par semaine. Pour la couture, 2 fois par semaine, mais on a 2h, 3h. Par exemple, aujourd'hui, de 2h30 jusqu'à 5h. Et l'anglais, 1 fois par semaine.
Anna Sada Rahma. Naïm Ansa, Kanalmoum Khiata. Hadnaf Simana, Kanalmoum Halwa.
Elle s'appelle professeur Rahma. Elle apprend aux femmes la couture, la broderie, 2 fois par semaine et 1 fois par semaine la cuisine.
Est-ce que avant la transmission de la couture ou de la cuisine comme un élément traditionnel se transmettait plus et s'est perdu, ou c'est une fausse idée que je me fais ?
Non, je crois que tu as bien raison, parce que avant la couture traditionnelle s'est perdue aujourd'hui.
Pourquoi ?
Parce que peut-être elle demande beaucoup de travail à la main. Ici au Maroc, on veut réapprendre ce qu'on a perdu. On a toujours le regret de ne pas avoir apprendre la broderie de mère ou de grand-mère. La machine a remplacé la main. Mais le travail à la main a toujours sa valeur.
Et ces femmes le font pour pouvoir les vendre après ?
Les femmes apprennent ça pour être premièrement soi-même. Je l'ai pas pour elles. Et après, pour la famille, c'est quelqu'un pour avoir de l'argent, pourquoi pas ?
D'accord.
Parce que ça coûte très cher de coudre une djellaba à la main. Je la fais moi-même, c'est mieux. On fait aussi la coupe couture moderne.
Avec les patrons.
C'est la coupe couture. Et ça, c'est le travail à la main.
Donc à chaque table, il y a une autre discipline, on va dire. Là, ils font le dessin, là, ils font du patron, la broderie.
Oui, chaque table. Chaque femme fait ce qu'elle veut apprendre et s'inscrit. Je veux faire ça et je vais faire ça. Et
le professeur passe, leur montre comment faire et après elle continue. Montre entre elles. Et
la fin de l'année, il faut avoir un classeur ou tous les échantillons pour avoir un diplôme, pour faire quelque chose comme un examen. On donne des diplômes chaque 2 ans.
Donc ce qui donne une exigence et une obligation de suivre et pas venir seulement une fois par mois.
60, 3 fois sans raison. Ne doivent pas venir autrefois. On peut remplacer par une autre.
Je m'appelle Kausal. Je prends le cours de couture pour préparer mon djellaba, mon kaftan et pour ma famille.
Et par exemple, votre mère, elle ne vous a pas appris à faire ça ?
Non, ma mère, elle est là. Elle prend une autre culture, pas comme moi.
Si c'est pas indiscret, vous avez quel âge ?
25 ans.
Pour se marier, aujourd'hui au Maroc, est-ce qu'il faut savoir faire la couture ?
Non, pas obligé. pour moi et pour ma famille, que je prends ça.
Et dernière question, quel est votre rêve pour la vie ?
je rêve... Beaucoup de rêves, mais je rêve de vivre tranquille avec mon mari et ma femme. Oui. Attention, un autre pays, pas de problème.
Et la balade se poursuit après avoir rencontré ces femmes, Julie.
Oui, elle continue, on remonte un petit peu sur la place du 8 avril où il y a la Cinémathèque, l'ancien cinéma Rif. C'est vraiment une devanture extraordinaire. On replonge dans le passé et pourtant, la Cinémathèque est complètement moderne.
Malika Chagall, je suis déléguée générale de la Cinémathèque et je suis là depuis début novembre, donc c'est très récent. Je viens de France, je suis franco-marocaine. Donc née au Maroc, mais ayant grandi en France, en région parisienne, j'étais exploitante de salles de cinéma à essai en région parisienne, notamment dans les quartiers difficiles de la banlieue. Et voilà, et maintenant je suis à la Cinémathèque et je suis très contente.
Qu'est-ce que ça signifie, déléguée générale ? Donc c'est programmation ?
C'est de la programmation, c'est la direction générale, c'est la stratégie, la coordination, c'est la politique.
Où est-ce
je vais
qu'on
vous faire
là,
une petite visite.
On passe par où ?
Je voulais vous les faire dans l'ordre.
Dans l'autre sens, ok, ouais, ça marche.
Donc je voulais qu'on commence par l'entrée.
Par le point de départ.
Cet ancien cinéma avait une programmation de films Bollywood, des films indiens essentiellement.
Voilà. Jusqu'à quand ?
Jusqu'au rachat de la salle en 2005, parce qu'il y a eu 2 ans de travaux. En fait, c'est un collectif d'artistes qui ont racheté le bail du cinéma.
D'accord.
Voilà. Et ensuite, qui ont fait des travaux pendant 2 ans pour le modifier, tout en gardant l'esprit d'origine du cinéma Rif.
Et quand on entre, On est tout de suite charmé par le look, en effet, années 30, comme ça, avec des plafonds et des murs en demi-courbe. Moi, je pense à années 30. Hein.
Cadres anciens, des très grandes stars du cinéma égyptien.
Et puis, un panneau marqué grande salle. Et qu'est-ce que vous allez faire ici à la Cinémathèque ?
Nous, on va faire une projection du film Tahrir. Et puis, un petit débat après avec les intervenants. Je n'ai pas la liste exacte ici, mais on marque le coup en faisant une petite soirée rencontre.
Donc le film Tahrir, ce film qui raconte la révolution sur la place Tahrir en Égypte. Voilà. C'est pas une provocation de montrer ici un film qui parle d'un pays qui a changé de gouvernement et qui a tout basculé dans une hypothétique liberté.
Non, mais l'histoire est en cours, là. C'est pas de la provocation du tout, non. Fartaha. Donc Fartaha est projectionniste et fait partie de l'ancienne équipe et il travaillait déjà au cinéma Rif.
Est-ce que de travailler maintenant à la Cinémathèque, c'est très différent que de travailler pour le cinéma Rif ?
Il dit un peu la même chose que Fatema, c'est-à-dire qu'avant, maintenant c'est beaucoup plus propre. Parce qu'à l'époque, les gens fumaient dans les salles, ils faisaient du bruit, c'était un peu. Maintenant, les spectateurs qui viennent respectent, c'est un public différent. Et avant, il n'y avait pas eu de programmation jeune public. Ici, il y a une programmation jeune public. Maintenant, on fait la Lanterne Magique, qui sont d'ailleurs suisses. Oui. C'est 10 films dans l'année, un par mois, avec une animation accompagnée d'un petit livret pédagogique sur le film que les enfants vont voir.
Donc on a vu les livrets de la vitrine, c'est exactement les mêmes qu'on a en Suisse pour nos enfants à la Lanterne Magique.
Sauf qu'ils sont en arabe. Exactement. Ils sont bilingues.
Et quel public ?
On fait deux séances cette année parce qu'on a beaucoup, beaucoup de demandes. Et la deuxième séance, ce sont des enfants qui viennent des quartiers défavorisés. Donc, ils viennent en bus et ça, c'est génial de faire venir les enfants des quartiers défavorisés pour assister aux séances de la Lanterne Magique.
Très bien. Mais je vois, il y a plein de publics jeunes qui arrivent.
Il y a des fumeurs de joint, mais c'est des petits enfants. Bonjour les enfants.
Voilà, ça va bien.
Bonjour, bienvenue à la Cinémathèque.
Merci beaucoup. Zineb.
Bonjour Zineb, Frédéric.
Enchantée. Qui est le pilier de la Cinémathèque, puisqu'elle est, c'est la caissière, et elle est là depuis le début du cinéma Rif.
Ça fait
30 ans qu'elle est là, donc c'est important que vous lui parliez.
Je ne sais pas parler français beaucoup. Je suis Safsa Zineb, je travaille à la caisse. Je suis caissière.
Et à quoi elle ressemble cette caisse ?
Toute ma vie. Parce que j'ai passé toute ma vie ici dans cette cage.
Donc, c'est un mur jaune.
Oui.
C'est écrit en dessus « caisse ». Et en arabe, comment ça se dit ?
Sandok, la caisse, où il y a d'argent.
Et puis en dessous, il y a en effet un grillage comme ça, en fer forgé, tout torsadé.
Ces grillages, parce qu'il y a un problème, ou là, quelqu'un fait faire des choses, il y a un grillage.
Est-ce que c'est déjà arrivé, ça ?
Bien sûr, mais ce n'est pas maintenant, c'est avant. Avant, c'est difficile de travailler au cinéma.
C'était comment ? Quel public il y avait avant ici au cinéma Rif ?
Un public qui fait beaucoup de choses, il parle mal. S'il y a une femme qui travaille, ça veut dire que cette femme, c'est pas bien. C'est pas comme maintenant.
Pendant 30 ans, vous n'êtes jamais dit, maintenant j'arrête, j'en ai marre de
oui,
ce travail ?
Oui, 15 ans comme ça, je vais arrêter. Mais le patron, le directeur, il m'a dit non. Il ne faut pas arrêter de travailler. Qui va travailler ici ? Parce que tout le monde à Tanger, il me connaît ici. Il y a trois séances, 3h30, 6h30 et 9h30. On reste ici jusqu'à 11h de nuit. Et chaque fois, la salle, elle est pleine. Tu ne trouves pas ta place. Qui va faire ce travail ? Il faut quelqu'un un peu dur. Et...
Ça, c'était avant ou c'est maintenant ?
Non, avant. Maintenant, non. Maintenant, on travaille tranquille. Il n'y a pas de monde comme avant.
Et ça, depuis quand ? Quand est-ce que ça a changé ?
Ça fait 8 ans. Quand il a cinéma Rif, il a changé.
Mais il y a 8 ans, il y avait encore beaucoup, beaucoup de gens qui venaient ici au cinéma ?
Avant, non, s'il y a de bons films, il y a des gens. S'il n'y a pas de bons films, il n'y a pas. Il y a des jeunes qui viennent au cinéma, elles entrent à 6h, à 3h, à 6h, à 9h, jusqu'à la fin du film. Et après, on commence l'autre film, le même visage, de 3h30, elle est là, jusqu'à minuit. Elle aime les films indiens, que indiens.
Et vous, vous aimez le cinéma?
Oui, bien sûr. Bien sûr.
Vous regardez tous les films qui passent?
Non, non, parce que je n'ai pas de temps, parce qu'il y a le film et comment je suis ici. Tous les jours, je vois la fin de film. Mais je comprends, hein.
Est-ce que vous avez un film préféré dans toutes ces années?
J'aime le film La Môme. La Môme.
La Môme. La Môme.
La Môme. J'aime ce film. Le jour qu'on a passé le film, le cinéma, elle est plein. Et tout le monde chante.
Ils chantaient quoi?
Je ne sais pas si j'en sens, tout le monde le connaît.
La vie en rose?
Je crois que... Oui. À la fin, il dit, et je reviens avec toi. On a quelque chose comme ça, oui.
Un sacré personnage, hein, cette caissière du cinéma, Zineb, elle vous a plu? On dirait qu'elle vous a plu, Julie.
Oui, parce qu'elle était très vivante comme ça, puis elle était magnifique comme ça derrière sa caisse. Et puis c'est la transition entre ce Tanger d'hier et ce Tanger d'aujourd'hui.
Frédéric Chauffat, vous avez demandé tout à l'heure à la responsable de la Cinémathèque si c'était une provocation de projeter le film La Place Tahrir. Pourquoi lui avez-vous posé cette question?
Parce que le film La Place Tahrir, donc c'est un film réalisateur italien, Savona, qui est sorti juste après Les Printemps Arabes, le premier film documentaire qui a relaté les printemps arabes, en l'occurrence en Égypte, sur la Place Tahrir. Et on est ce jour-là le 20 février. Le 20 février, c'est le début du réveil citoyen du Maroc. Donc on est en 2011, 2 ans auparavant. Là, c'est les 2 ans de l'anniversaire du 20 février. Et sachant cette date, on se dit, mais c'est fou, on sait que ce pays, il y a beaucoup de censure, on n'a pas le droit de critiquer la monarchie parlementaire, pas le droit de critiquer le roi.
Vous-même, vous êtes senti quelquefois suivi et observé, ouais.
On ne sait jamais, après on se pose la question, mais du coup on se dit, elle va passer ce film, qu'est-ce qui se passe? Et en effet, on est là, on attend, il y a quelques personnes qui attendent pour voir le film le soir, pas mal d'occidentaux, et puis on entend des bruits, on entend une rumeur qui monte, et on découvre que derrière nous, sur la place du 8 avril, il y a une manifestation illégale d'activistes du mouvement du 20 février pour fêter les 2 ans.
Et là, on cache son micro dans son sac et on essaie de rencontrer les activistes?
Ou alors justement, il est hors de question d'avoir un micro et d'interviewer publiquement, passer tout de suite mettre en danger la personne en face. Et on pose la question à quelqu'un, on dit mais qu'est-ce qui se passe exactement? Et on tombe sur un des meneurs du groupe qui nous dit, il faut lutter aujourd'hui, il faut lutter contre le roi, on le fait aujourd'hui à visage découvert. Et là on demande à prendre rendez-vous et il nous fixe rendez-vous le lendemain, à la même heure, au même endroit. Et on va les suivre et se glisser dans les ruelles, dans un café, entrer dans un café, passer dans un sous-sol, arriver dans une terrasse extérieure, à l'arrière du café. Et là va commencer notre rencontre.
La manifestation et puis votre rendez-vous, vous l'indiquiez, le lendemain avec les 4 activistes.
Nous sommes à Tanger, au Maroc. Qu'est-ce que cette date du 20 février pour vous ?
C'est une nouvelle année dans ma vie. J'ai passé toute ma vie en silence. Et soudain, j'ai trouvé mes copains en misère qui crient contre le gouvernement et contre l'État. Et j'ai sorti. Ça fait 2 années et je criais.
Hier, c'est le 2e anniversaire du mouvement 20 février. Ça fait 2 ans que le peuple marocain a été décidé pour descendre à les rues pour crier contre le régime, contre le gouvernement. Comme tout le monde sache ça, que le Maroc, c'est un pays plein de choses. Mais pour nous, le peuple, nous sommes dans un état misère. Les produits essentiels sont très chers, le local aussi.
Ce que je veux dire, pour moi, le mouvement 20 février, le jour d'hier,
c'est contre ce système. Ce gouvernement et les autres qui ont passé avant, ils ne travaillent pas pour le peuple, travaillent seulement pour les bourgeois.
On n'a rien obtenu avec le nouvel gouvernement qui est islamique, avec le grand président, c'est Abdelilah Ben Kiran, rien apporté. Justement, il apporte des discours qui sont vides.
Mais le problème au Maroc, ce n'est pas Ben Kiran. Le problème au Maroc, c'est le pouvoir. C'est le pouvoir. C'est ça le problème. Continuez, Abdou, s'il vous plaît.
Donc, le jour d'aujourd'hui, on dit au régime marocain, nous sommes encore à la rue, nous sommes encore demandant notre droit de parler librement, notre droit d'être des vrais êtres humains, pas des esclaves, etc. Comme vous savez, le régime marocain, il dit que le peuple marocain, ce sont des esclaves.
Pour moi, je suis né dans un quartier où je vois les enfants dorment dans la rue. J'ai vu aussi des peuples qui ne peuvent jamais dire quelque chose à un policier, hein, quand il voit, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que vous faites. Le personnage entre chez vous, il ne peut jamais discuter. Le 20 février, c'est notre voix. C'est un trésor, notre pays, c'est un trésor vraiment. Et pour sa culture, tourisme, il y a, comme on dit, deux mers, le mer Méditerranée, on ne voit rien de ça. Même le peuple, il ne peut pas acheter beaucoup de poissons, par exemple. Il ne peut pas, même les livres pour les enfants. Ils disent que pour aller à l'école, ici, c'est gratuit, mais ce n'est pas vrai. Pas de futur, pas de destin. Nos parents vivent... misère, vraiment de misère que je ne peux pas les mots, désolé pour les mots français.
On cherche notre dignité, notre liberté, notre droit de vivre dans notre pays comme des êtres humains. C'est un régime criminel.
Mon nom c'est Mohamed Mezouri. Alors, et mon AKA, comme on dit, le nickname.
Mon nom de scène.
Ah ouais, c'est Muslim. Moi, un rappeur tangérois. Moi, ouais, je rappe en arabe et mes chansons parlent de problèmes de la rue, le gouvernement, tout ce qu'on voit, il n'est pas bien. On parle de. C'est ça le rap. Parfois, je touche des choses, des thèmes politiques. Mais c'est le rap, tu vois.
S'il y a une chose que tu pouvais changer à Tanger, qu'est-ce que tu aimerais pouvoir changer?
La drogue, tu vois. Moi, j'aime pas la drogue. Et surtout le heroin. Parce que ici à Tanger, il y a beaucoup d'héroïne ici. Et les jeunes sont perdus dans cette drogue. Alors, moi, j'ai des textes et des morceaux qui parlent de cette drogue. Et bon, c'est pas mon seul but. Il y a beaucoup d'autres choses que je veux les changer. Héroïne, halwa, chayatine. دخلت باللحوم وزرات في الشرايين دراري حاصلين في الدروبة عاكلين عايشين واقع مركي دم على عين هادو كاملين اللي كتشوف كانوا قافزين كانوا بالصحة ديالهم كانوا لابسين يمكن دوزوا الفلوس يمكن دوزوا الصلابة يمكن كانوا من الناس عمرنا في حطابة كل واحد وكيفاش جبتوا تبلا حتى ولات القبلة في المكان تكحلا عاملين الصف يشريوا السم الفلوس والبزنس ما على بالوش راه يقتل النفوس وحد الحومة ديالو كيبوتوا عرق بعرق ما عرفتش كيفاش اللقمة توزنوا في الحلق بين الحرام والحرام كاين مليون فرق صعيب تلقى الخلق بدنو بالخلق جناك عاملين الصف في الهيروين يشريو بين صناقي دالعين في الحومة يجريو قاصدين الخرق في القناة يقليو والدولة ما على بالها موتو كتشوتيو جناك عاملين الصف.
Voilà, toujours à Tanger, un rappeur que vous avez rencontré finalement de façon de s'engager à travers les textes de cet homme et puis aussi ces activistes qui ont pris des risques en témoignant à votre micro, Frédéric Chauffat.
Oui, on était très très touché parce que ces quatre personnes vraiment qui viennent des populations basses, qui viennent des bas quartiers, on va dire, très populaires, et qui décident de parler à visage découvert, qui décident de prendre position dans un pays où on n'a pas le droit de parler du roi, même pas de le critiquer. Évoquer le roi, c'est déjà dangereux, c'est déjà, ça fait peur. Et tout d'un coup, eux acceptent d'avoir une page Facebook, d'avoir leur image et puis de prendre position, de parler.
Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a eu une sorte de déception parce qu'il y avait une très très grosse attente à l'arrivée du nouveau roi? Aujourd'hui, on en est où par rapport à cette attente-là?
Alors, je ne suis pas un grand spécialiste. Nous, ce qu'on nous a raconté, c'est qu'en effet, d'un côté, il y a peut-être une classe moyenne qui dit on est content de ne pas voir la révolution parce que regardez ce qui se passe dans les autres pays, l'Afrique du Nord, l'Égypte, la Libye, la Tunisie. Donc on préfère avoir un roi qui amorce une transition et d'autres qui disent c'est pas une transition, c'est juste une façade. Les droits restent tout aussi réduits pour chacun et on a envie que ça bouge. Mais même là, c'est interdit. Alors ce qui était assez drôle, c'est que pendant cette interview, tout d'un coup, ils font une photo de nous en disant ça vous gêne pas qu'on mette ça sur Facebook? Et puis d'abord, on se dit, mais alors, est-ce qu'on a le droit? Et on se dit, mais bien sûr, si eux acceptent de témoigner à visage...
On va pas refuser.
On va pas nous refuser, mais c'est déjà, on entre voilà, dans un engagement et un soutien à des gens très courageux.
Julie Gilbert, demain, où allons-nous et qui allons-nous rencontrer?
Alors demain, on reste à Tanger, mais Tanger, comme on l'a dit au début, c'est une ville frontière, c'est une ville entre deux mondes, entre l'Afrique et l'Europe. Et du coup, il y a énormément de migrants qui tentent de traverser, notamment des subsahariens. Et on a la chance d'avoir rencontré ces gens qui nous racontent...
Qui vous ont bouleversé, hein ?
Beaucoup, et qui nous ont raconté surtout leur odyssée, en fait, comment ils sont partis de leur pays d'origine. Et ils espèrent passer ces 14 kilomètres qui séparent Tanger de l'Espagne.
Ça a été difficile de trouver des gens qui témoignent et qui vous racontent des histoires assez terribles?
Pas tellement finalement, parce que ces histoires, elles débordent d'eux. Alors après, ils racontent pas tous volontiers leur histoire, mais la plupart avaient envie de témoigner pour dire parfois aux autres, ne traversez pas, c'est trop dangereux, ça vaut pas le coup, ou simplement dire leurs rêves, comment ils ne peuvent plus vivre chez eux et comment ils espèrent vivre de l'autre côté.
Alors ce qui vous a frappé aussi, ce sera le mot de la fin, c'est que on dit pas qu'on est marocain, on dit qu'on est de Tanger essentiellement, Fred ?
Comme les Marocains disent qu'ils ne sont pas africains, les Tangérois sont de Tanger en effet. Et c'est une ville où, autant dans le sud ou le centre du Maroc, on va parler plutôt français avec l'arabe. Ici, on va parler autant espagnol, anglais que français comme deuxième langue pour compléter l'arabe.
Ou alors encore cette langue dont on a parlé tout à l'heure ?
Le Darija, qui est en fait l'arabe marocain en effet, dialectique.
Frédéric Chauffat, Julie Gilbert, on vous retrouve demain pour ce deuxième épisode consacré à la migration depuis Tanger. Donc à suivre, merci d'avoir présenté ce reportage en direct. À demain. Merci, grand merci à Jessica Amar qui a jonglé avec les sons et avec nos interventions en direct. C'est Didier Rossa qui a réalisé les reportages. C'est François Piton qui a choisi plusieurs disques, mais vous le voyez, on n'a pas eu le temps d'écouter beaucoup de chansons. Et c'est Stéphanie Gocci, l'assistante de l'émission, qui a été préparée aussi avec la complicité d'Alain Maillard. Voilà, tout à l'heure, Mélanie Croubalian, après les informations, il est sur la première, exactement 14h.